Chapitre 32. Dans le tunnel, l'air semblait plus humide et froid encore que la veille. Il y avait davantage de pierres sur le sol. Il restait encore une vingtaine de mètres avant l'endroit où nous avions découvert les fragments de mécanique et d'électronique, et déjà nos faisceaux éclairaient des blocs de roches plus volumineux. Cela n'était pas là hier, constatai-je. Cela confirme ce que je craignais. Ils ont fait exploser d'autres charges. À l'endroit où nous nous étions trouvés la veille, le sol était littéralement couvert de gravats et de terre. Un des hommes de notre petite équipe laissa échapper un long sifflement en constatant les dégâts. De larges crevasses fissuraient les blocs taillés de la voûte et des parois. Quelques langues de terre avaient traversé les murs pour venir se répandre dans le passage, et il y avait d'autres vestiges d'appareils. Les dégâts étaient sérieux, mais nos ennemis n'avaient pas encore réussi à pénétrer dans le tunnel. Nos lampes balayaient chaque zone du couloir, mais je ne pouvais même pas déterminer dans quel axe ils attaquaient leur percement tant les débris étaient répartis uniformément. Le souffle des explosions devait rebondir sur la roche et se transmettre à toute la masse, la faisant suffisamment vibrer pour provoquer des dégâts, mais sans pour autant la traverser. Au retour, je m'arrêtai à l'endroit où le tunnel se scindait en deux, conduisant soit aux entrepôts et à la cité par la galerie haute, soit au grand carrefour par celle du bas. Ils ne doivent pas arriver à cette bifurcation une fois qu'ils auront percé. Sinon, nous nous retrouverons avec deux fronts au lieu d'un. Il faudrait obstruer la galerie juste avant cet embranchement. On va devoir les bouler, même si c'est extrêmement risqué. À moins que... Je m'interrompis. Une idée, un embryon d'idée du moins, m'avait traversé l'esprit, mais j'avais encore besoin d'y réfléchir. Bon, repris-je, si jamais on doit les bloquer dans l'urgence, ce sera ici. Si nous n'avons pas d'autre choix, nous effondrerons ce carrefour. Je vais revenir le piéger. Nos compagnons échangèrent des regards préoccupés. Nathan, songeur, éclairait tour à tour les plafonds, celui de la galerie haute et celui de la basse. Il s'attarda quelques secondes avant de nous suivre. Nous prîmes la galerie haute. Nous nous dirigions à présent vers le cœur de la cité souterraine. Les tunnels étaient moins larges, les carrefours plus nombreux, et le bruit d'une intense activité s'entendait de plus en plus distinctement. L'itinéraire montait en pente douce. Derek ouvrait la marche, sa boussole à la main, suivi de Nathan, puis de nos compagnons. Je venais en dernier, préférant rester en arrière pour mûrir mon idée. Quelques minutes plus tard, nous débouchâmes dans une vaste salle cylindrique, large d'une trentaine de mètres et haute d'environ 4 étages. La place du marché était le dernier point de rencontre avant de pénétrer dans la cité proprement dite. Des projecteurs placés à la hâte éclairaient l'immense échangeur de souterrains. Bouche bée, Nathan tournait sur lui-même en contemplant les escaliers reliant les différents niveaux qui tapissaient les parois. Certains couloirs étaient éclairés par des torches, d'autres par des rampes ou des projecteurs à LED. Partout, des hommes allaient et venaient, transportant du matériel électronique ou tirant des câbles pour amener le courant dans les salles que les différentes équipes allaient occuper. Lors de notre première campagne de recherche, seule une dizaine d'entre nous avaient pénétré ici. Aujourd'hui, nous devions être au moins 50. La rumeur des voix courait dans les galeries. La lumière repoussait l'obscurité et tous ses frères qui allaient défendre ce lieu contre ses ennemis. La cité reprenait vie et s'activait comme 8 siècles auparavant. J'étais ému à la perspective de vivre dans les mêmes lieux que ceux dont nous partagions l'esprit, d'y éprouver les mêmes espoirs, les mêmes peurs face à des assiégeants qui n'avaient pas de meilleures intentions que leurs prédécesseurs. Laissant le reste du groupe procéder à l'installation, je m'engageai avec Derek dans une sorte de rue souterraine. Nathan ne savait plus où porter le regard. De chaque côté de l'allée centrale s'ouvraient des portes et des fenêtres, creusées directement dans des veines de roches ou faites de pierres taillées, de terre et de bois. On aurait dit l'une de ces ruelles bordées des chopes des villes médiévales. Certaines pièces étaient déjà éclairées. L'une d'elles avait même été équipée de tables et du matériel de mesure y était en place. Passant devant la porte, Nathan me glissa à l'oreille. « C'est féerique. On dirait un décor. On se croirait dans un roman de Jules Verne. » Caressant un chambranle, il ajouta « Tu as vu les fenêtres, les portes? Tout est d'origine ?» Oui. Elles n'ont jamais eu à affronter ni les intempéries, ni la pollution. Ici, il n'y a pas de pluie, donc pas de moisissures ni de champignons. La température et l'hygrométrie sont constantes. Le bois a été choisi de façon idéale. Il sera encore là dans 500 ans. Nous croisions des ingénieurs, des chercheurs, hommes et femmes, moines et laïcs mêlés, et des gardes qui transportaient les objets les plus hétéroclites, des ordinateurs, des géoradars, des magnétomètres, des verreries de laboratoire ou des rouleaux de cartes. Un jeune frère accrochait des panneaux indicateurs fabriqués dans l'urgence pour faciliter l'orientation. Derek nous mena à l'une des pièces les plus éloignées. Les fenêtres avaient été obstruées et la porte était close. Il frappa et attendit qu'on l'y autorise avant d'entrer. Dans la petite pièce basse de plafond, Benoît, le sage et un frère, en grande discussion, consultaient des plans déroulés devant eux. « Vous voilà enfin !» s'exclama Benoît. Derek referma derrière nous et je démarrai sans attendre. « Nous revenons de la galerie de Serlong. Elle est plus endommagée qu'hier. Ils poursuivent leur percement. Mais sur place, j'ai songé à quelque chose. Nous pouvons peut-être les stopper sans avoir à les affronter. » Toutes les têtes se tournaient vers moi. Il suffirait de leur faire croire qu'ils ont débouché, non pas dans un couloir, mais dans une cache isolée, un cul-de-sac. Je ne sais pas encore exactement comment, mais au lieu d'écrouler la galerie, il faudrait bâtir un mur en travers. Une paroi qui aurait la même apparence et semblerait datée de la même époque que les murs authentiques. Derek réfléchit. Ainsi trompé, persuadé d'être tombé dans une impasse, il n'irait pas chercher plus loin. Pensif, le sage hocha la tête. L'idée est audacieuse, c'est peut-être réalisable, et ce serait plus efficace et moins risqué que débouler le passage. On doit pouvoir récupérer des blocs de pierre un peu partout dans la cité, mais il va falloir faire vite. Pour les pierres, intervint Derek, j'ai peut-être une solution. Très bien, dis-je, il faut que tout le monde, sauf les chercheurs, transporte les pierres jusqu'au lieu de construction. Par sécurité, je préfère quand même piéger la bifurcation pendant que les gardes construiront le mur. Puis, à l'intention du sage, j'ajoutai. Vous me semblez en sécurité ici. Même si nos ennemis trouvaient les galeries, nous aurions le temps de vous évacuer par l'ouest. Je ne suis pas ici pour m'enfuir, répliqua le sage, mais pour trouver le laboratoire. Il avait parlé d'une voix calme, mais qui ne souffrait aucune contradiction. Nathan se figea. Benoît, lui, opina en silence. Je me tournai vers Derek. « Tu es certain que vous n'avez pas été repéré en faisant entrer le matériel par Montferrier ?»« Nous avons envoyé des drones et un hélico faire diversion au-dessus d'eux, en étant volontairement peu discret. On en a profité pour faire des photos plus détaillées. »« Parfait. Ils croiront que nous préparons seulement notre arrivée. Ça va nous donner un peu d'avance. C'est appréciable. Des nouvelles d'Andrew ?» Oui, je l'ai eu en visio juste avant que nous ne quittions l'abbaye. À Londres, plus rien ne semble bouger. William, Kathleen et d'autres ont appelé. Les messages sont sur ta table, dans ton bureau. Ce que Derek appelait « mon bureau » était une des petites pièces donnant sur la ruelle souterraine par une porte ronde et basse et une fenêtre sans vitre. Elle jouxtait celle du sage. C'était le genre de lieu dont rêvent tous les enfants, souterrain, secret, un endroit au parfum de mystère et de sortilège. Dans la réalité, ces modestes échoppes avaient servi d'atelier pour la fabrication d'objets à l'usage des ordres. On créait ici des ornements, des armes, des sceaux, des vêtements. On copiait des manuscrits. Nous étions probablement dans la plus ancienne cité industrielle d'Europe. Le choc de la tête de Nathan heurtant une poutre trop basse me ramena à notre sujet. Je n'entendis que la dernière phrase de Derek. Un rassemblement général est fixé à 22h sur la place du marché. La place du marché. Entendre dans la bouche de Derek cette expression si étroitement rattachée à la notion d'espace et de lumière, alors que nous nous trouvions en un lieu qui n'avait jamais vu un rayon de soleil, me fit un drôle d'effet. Mais il s'agissait bel et bien d'une ville souterraine. Je demandai à Benoît de faire découvrir à Nathan les quartiers voisins. Je pourrais ainsi me concentrer un peu avant d'avoir à m'adresser à l'ensemble de l'équipe. Je m'apprêtais à suivre Derek vers ma pièce lorsque le sage m'interpella. « Nous n'avons pas eu le temps de parler de ton ami. Souhaitez-vous le voir maintenant ? C'est inutile. Votre opinion est faite ?» Pour toute réponse, le sage hocha la tête. J'hésitais avant de risquer une question. Il savait que j'allais solliciter son verdict, mais il attendit que je le lui demande pour répondre. « Est-il vraiment nécessaire de te donner mon point de vue ? Vous avez choisi tous les deux. Lui a refusé de se plier aux consignes, et toi tu as décidé qu'il pouvait nous rejoindre, unir ses forces aux nôtres. Ou plutôt, unir ses forces aux tiennes, car ai-je tort de dire que dans ton esprit, Nathan ne fait pas partie de la confrérie, pas encore, mais qu'il fait partie de toi comme tu fais partie de lui. Je n'avais rien à répondre, il avait raison. Tu souhaites connaître mon avis, alors le voici. Tu as eu raison d'enfreindre nos règles en l'amenant ici. Il servira son esprit et le nôtre comme tu l'aurais fait si tu avais pu être deux. Je vous envie, car peu d'humains peuvent goûter au bonheur de la vraie fraternité. Allez, va. Nous nous reverrons au rassemblement. Je hochai la tête, le cœur battant, reconnaissant de son assentiment. Même à la lueur des torches, je devais être pâle.